Et ça m'intéressait de voir pourquoi en plein siècle des Lumières, tout d'un coup, il y avait quelque chose, une réaction collective, plurielle, si on peut dire. Tout d'un coup, l'imagination se créait un lieu qui était ce château. Et en réalité, c'est déjà se crée spontanément le décor du romantisme.
Oui.
Avec la découverte de la grande nature, la découverte aussi que l'excès qui est au cœur de l'homme, c'est de la même sorte que l'excès qui habite la nature et tout ça. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Sade, par le château. Parce que je me suis rendu compte que Sade investissait le même lieu, sauf qu'il commençait là où les autres s'arrêtent. Oui, c'est comme ça.
Ah, ça c'est passionnant.
Ah oui, c'était passionnant. Oui. Mais c'est un peu par hasard, comme ça j'ai commencé à m'intéresser à ça à cause d'une phrase du premier manifeste du surréalisme de Breton, qui parle justement du roman noir, qui dit que dans tous les romans, enfin qui est une critique très féroce du roman, mais que du roman il ne retient que les romans noirs, parce que c'est des livres qui ouvrent sur le merveilleux. Et la preuve que ces livres ouvrent sur le merveilleux, ils parlent du moine de Lewis, celui qui après qui avait été mis en scène par Artaud, qui en a fait une adaptation. Il parle d'une héroïne féminine qui s'appelle Mathilde. Et il dit ce personnage est une tentation à l'état pur. Et si un personnage n'est pas une tentation, qu'est-il ? Alors, à 17 ans, quand j'ai lu ça, moi j'ai voulu voir les livres où les personnages étaient des tentations à l'état pur. Et j'ai commencé à m'intéresser à ces romans-là qui étaient pratiquement inaccessibles. Et tout ça, c'était des livres considérés comme la littérature, quelque chose comme ça. Et bon, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'effectivement, là, il se passait quelque chose de très important et qui renvoyait aussi à un changement de sensibilité très profond qui recoupait l'art des jardins, qui recoupait toutes les interrogations aussi sur le désir, sur la question érotique. Et dans le fond, tout se passait comme si l'imagination plurielle s'était trouvé un lieu où pouvoir poser les questions que les philosophes des Lumières ne posaient pas, évitaient. À partir du moment où la représentation chrétienne du monde commence à s'effondrer, qu'est-ce que c'est le mal, qu'est-ce que c'est que le désir, qu'est-ce que c'est que l'excès, etc. Et la philosophie des Lumières ne répond pas à ça. Hein.
Non, bien sûr.
Et c'est ça, donc c'est tout d'un coup l'imagination qui a pris en charge ça. Et moi, ça m'a complètement bouleversée. Et chemin faisant, j'ai découvert que Sade était là où les autres n'allaient pas. Parce qu'à la fin, ces romans-là se terminent toujours par une sorte de coup de théâtre. Tout revient dans l'ordre parce que c'est toujours la même histoire. C'est une jeune fille pure, sans tache, que les malheurs de la vie jettent sur les routes, qui est complètement perdue, donc dans la grande nature, dans la forêt, dans les orages, les précipices, et tout d'un coup elle voit un château. Et elle pense qu'il va y avoir un sauveur dans le château. Mais il se trouve que le sauveur va être quelque peu sadique. Et en général, il y a toujours un coup de théâtre qui fait que tout rentre dans l'ordre. Mais avec ça, non. Lui, il commence là. Et voilà. Et c'est comme ça que... Voilà.
Et il ose aller là, et finalement, c'est révélateur pour ce qui se passe après. Parce que c'est ça, là où on va vers la lumière, on va vers l'obscurité, vers les ténèbres en même temps. C'est ça.
Et moi, ça m'a passionné. Je suis sûre que aussi toute une part de la modernité vient de là, vient aussi du fait qu'on n'a pas assez regardé ce qui se passait là, et les questions qui n'étaient pas posées, et qui après allaient être complètement évitées avec le roman larmoyant, enfin cette littérature de la jeune fille vertueuse, etc. Et Justine, c'est aussi une réaction féroce contre ça.
Oui.
en fait, au milieu du sujet, parce qu'on s'est rencontrés ici autour de Toyen.
Oui.
Toyen, d'ailleurs, comment vous dites? Parce que là, dans l'expo, on nous a expliqué, pour moi, c'est citoyen, c'est Toyen.
Ouais.
Mais c'est Toyen.
Oui, voilà. Elle, alors, il y a des tas de théories.
Ouais.
Les gens, surtout maintenant, avec les histoires transgenres, masculin, féminin,
exactement.
On veut en faire un personnage. Alors, elle, moi, elle m'a dit, et elle a dit à d'autres personnes, mais moi, elle m'a dit que, donc, quand elle avait 17-18 ans, elle était fascinée par la Révolution française, par le fait que les gens s'appelaient citoyens entre eux, ci-devant, etc. Et comme elle voulait, vous savez, quand dans les langues tchèques, slaves, je crois, les patronymes, on a le patronyme du père. Donc, elle s'appelait du nom de Tcherminova. Et je pense que pour elle, c'était insupportable d'avoir. De ne pas être elle,
hein, ouais,
c'est ça.
Ouais.
Donc du coup, elle a choisi de. Elle s'est choisi un nom, et comme elle ne savait pas très bien le français, elle m'a dit qu'il y avait citoyen, c'était comme si devant, j'ai coupé le si, et c'est resté toyen.
Ouais.
Donc, dans le fond, ça vient de toyen, mais comme elle avait l'accent tchèque, et que les consonnes sourdes, ben les voyelles sourdes n'existent pas.
C'est ça.
Donc elle disait au téléphone, elle est citoyenne.
Voilà, donc en principe c'est toyenne et pas toyen.
Ah, ouais, ouais. Elle, dans le fond, c'est toyen normalement,
ouais,
mais elle disait toyenne parce
toyen.
Qu'elle ne pouvait pas dire.
Tout la différence, voilà, ouais, ça s'explique. Ça. Oui, c'est ça. Je comprends. Oui, oui.
Mais donc, elle m'a dit très clairement que ça vient de ça, de la Révolution française, ça lui plaisait, et tout ça, voilà.
Oui. Donc, Annie Lebrun, parce que je suis en face de vous, vous êtes un grand personnage par rapport à tout ce qu'on a évoqué un peu, un de vos départs qui amène aussi vers le surréalisme, mais vous êtes beaucoup de choses à la fois. Vous êtes poète vous-même, vous organisez des expos, vous les chorégraphiez, parce que moi je trouve en français, il y a le terme conservatrice d'expos, ce que je trouve absolument horrible.
Conservatrice, c'est quand on travaille dans un musée. Mais c'est quand ça. On fait une exposition, c'est pas mieux, c'est commissaire.
Commissaire, oui, c'est horrible. C'est pas une façon de dire, et je pense pas que ce que.
Mais c'est que comme on n'est pas dans un musée, c'est commissaire invité.
Oui, d'accord.
Tout ça, c'est...
Mais c'est ce que vous êtes dans ce cas-là, un peu. Vous êtes commissaire invité.
Quelque chose comme ça.
N'importe.
Oui.
N'importe.
On m'en occupe.
Voilà. Ça, de toute façon, ça ne nous intéresse pas. C'est juste à évoquer au départ un petit peu.
Voilà.
Pour voir un peu,
oui.
Je veux dire, en quelle fonction vous êtes là. Mais surtout, ce qui m'intéresse là, lors de notre entretien le plus, c'est comment vous avez pas seulement rencontré, quelle est votre histoire avec Toyen? Parce que vous l'avez vraiment rencontré, vous étiez une compagne, une amie, et,
oui,
et voilà.
Oui, oui.
Alors, et évidemment, vous connaissez très bien son œuvre, mais voilà, votre vue très personnelle ou votre vécu personnel, c'est ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire.
Ouais. Comment j'ai rencontré Toyen? C'est-à-dire que vers 17-18 ans, moi je ne voulais rien faire de ce qu'on avait prévu pour moi. Pas de carrière universitaire, rien du tout. Et je me suis rapprochée des surréalistes.
Et, très jeune.
Moi, j'avais à peine 20 ans, oui, ça. J'ai rencontré Breton. Il était en vacances et il m'a dit, si vous venez à Paris, vous pouvez venir à l'endroit où... Il se réunissait tous les jours au café. Et c'est là que j'ai rencontré Toyen, qui était parmi les gens qui avaient à ce moment-là autour de Breton. Et elle m'intéressait beaucoup parce qu'elle ne disait rien. Et puis il s'est trouvé qu'au fur et à mesure, je me suis rapprochée de Radovan Ivšík, avec qui après j'ai vécu. Et Radovan Ivšík, qui était poète et auteur de théâtre, était un très grand ami de Toyen. Et comme ça, j'étais en contact assez proche avec Toyen. Et puis, je dois dire que quand je me suis rapprochée des surréalistes, moi, j'avais rien fait, j'avais rien écrit. Et ça,
vous étiez toute neuve dans
oui,
ce...
Oui, et ça me plaisait... rétrospectivement, ça me plaît beaucoup. Parce qu'en général, avec les autres avec les avant-gardes, il faut montrer, il faut avoir. On a fait. Moi, non, je suis arrivée là, j'étais là, quoi, c'est tout. Je suis
et passée. C'était possible, parce qu'on a l'idée que c'était un cercle un peu fermé, en fait, c'était pas le cas.
Pas du tout, il suffisait d'arriver. D'arriver, bon, d'avoir manifestement d'être intéressée par certaines choses, quoi, c'est tout. Et ça, et je me suis. C'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, moi, j'ai jamais eu de but ni de projet, quoi que ce soit. Et bon, et étant parmi ces personnages-là, et à un moment, j'ai écrit quelque chose, et j'ai montré ça à Radovanifsi, qui lui a montré à Toyen. Et elle a dit, moi, je veux illustrer ça.
C'était de la poésie.
C'était de la poésie, oui, c'est ça. Et quand on m'a dit ça, je n'en revenais pas du tout. J'étais stupéfaite et... Non, non, elle voulait absolument illustrer ça. Et ça a commencé comme ça, donc j'étais tout, déjà assez près d'elle, parce que donc j'étais avec cette amie, donc avec Radovanifsi, qui était liée avec elle, qui était très liée avec elle. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à travailler ensemble. Moi, du fait qu'on travaillait ensemble, j'étais plus libre, je pouvais plus parler. Au début, je parlais pas beaucoup, hein, moi.
Non plus. Elle, non plus. Vous non plus.
Mais et donc après, jusqu'à sa mort, on a été très très près, hein, voilà. Et pratiquement tout ce que j'ai écrit d'ordre lyrique, poétique, c'est elle qui l'a illustré après. J'ai eu cette chance-là.
Et comment ça s'est passé ce travail-là? Il y avait un échange, la poésie était prête, ce que vous aviez écrit c'était prêt, ou est-ce qu'il y avait un échange?
Non, c'était complètement fait, il y avait mon texte, d'accord. Et elle de son côté, elle a fait quelque chose qui lui semblait répondre, et moi ce qui m'a fascinée dans ce que ça a suscité chez elle, c'est que tout d'un coup, à travers les images, elle c'est plus que prolongé, elle donnait une autre résonance à ce que j'avais fait.
D'accord.
Et je lui suis très reconnaissante de ça.
Donc rien à voir avec une illustration dans le
rien
sens
du
propre
tout.
Du terme.
Rien du tout. Rien du tout.
Oui, oui.
Et à chaque fois, c'était comme ça. Et presque on ne parlait jamais, on ne discutait pas du tout.
D'accord.
J'apportais mes choses, elle apportait ses choses. Et bon. Alors après, comme il y avait ces éditions surréalistes, on faisait soi-même plus ou moins les livres, enfin on composait la mise en page et tout ça, et Radovanifsi nous a beaucoup aidés. Mais donc là, on discutait sur le choix du papier, le choix des
d'accord.
choses, mais autrement, sur le contenu, c'était évident. C'était ça.
D'accord.
Et ça, c'est merveilleux quand il n'y a rien à dire.
Oui, c'est comme deux âmes qui sont en résonance sur la
oui,
même fréquence.
Oui, quelque chose comme ça.
Peu.
Oui, et en même temps, je ne me suis pas rendu compte, j'étais quand même très très jeune, je ne me suis pas rendu compte de la chance extraordinaire que j'avais.
Oui.
Pour moi, c'était dans l'ordre des choses, quoi, c'était ça. Et bon, on avait quand même 40 ans de différence. Hein.
Oui.
Et ça, c'est aussi à la fois la grandeur et la générosité de Toyen. Parce que bon, c'était un personnage considérable, et maintenant quand on voit le parcours qui est des plus impressionnants, et elle était de plein pied avec ce jeune personne qui avait 20 ans. Quoi.
Oui, mais ça, je trouve que c'est absolument extraordinaire, et ça montre qu'elle, oui, vous disiez le mot générosité, et ouverture aussi.
Oui,
parce
oui.
Que...
et jamais, même, moi je ne me rendais même pas compte que... Elle avait 40 ans de plus que moi, c'est en réfléchissant. Mais comme Radovan avait 20 ans de plus que moi, tout ça, c'était...
ça n'avait pas d'importance.
Ça n'a pas d'âge. Ça... Et la poésie et la révolte, parce que c'est ça aussi qui est derrière tout ça, la révolte contre la vie qu'on nous fait faire, qu'on nous inflige, ou qu'on accepte,
ouais.
Ça n'a pas d'âge. Hein.
Ouais.
Et ça, c'est pour ça que... aussi le personnage de Toyen est si, pour moi, est si important et si fascinant, parce que par rapport à beaucoup d'artistes, de penseurs du XXe siècle, à 80 ans, enfin, il avait presque 80 ans, c'était le personnage qui était aussi révolté que celui qu'on voit sur sa photo à 17 ans. C'est-à-dire sa détermination à ne pas en passer par les médiocrités de la vie n'avait pas une seconde baissé.
Et en fait, c'est là-dedans que vous avez pu vous rencontrer. Vous qui n'avez pas d'âge, si vous étiez toute jeune et comme vous disiez, vous ne voulez pas entrer dans les parcours qu'on vous proposait. Vous êtes retrouvé là-dedans. Oui, ça c'est extraordinaire, je trouve, de garder ça aussi.
Et elle ça, et donc c'est pour ça que je suis très contente que, et à Prague et ici, et je pense qu'à Paris on fait la même chose, qu'il y ait ce portrait-là de cette jeune fille de 17 ans, parce qu'on voit dans le visage, il y a tout, dans son visage, il y a tout. Il y a le vent, il y a tout. Il y a ce qui ne peut pas s'acheter, ce qui ne peut pas se soumettre. Déjà, elle porte ça dans ses yeux, et après, ça va être son destin toute sa vie.
Ça m'a fait tout de suite penser, d'ailleurs, c'est une des premières pensées que j'ai eues quand j'ai traversé aujourd'hui l'exposition un peu rapidement, comme c'est une conférence de presse. Je m'étais posé la question, qu'est-ce qu'elle en dirait aujourd'hui? Parce que d'un côté, c'est fabuleux d'avoir une exposition de cet ordre-là, où vraiment il y a une sorte de rétrospective, etc. Mais en même temps, il y a toujours le danger dans ce cas-là, c'est qu'il y a une sorte de volonté de la part de l'histoire de l'art ou des gens qui, je veux dire, n'importe qui regarde maintenant son œuvre, de vouloir le capter quelque part ou l'intégrer dans une idée, dans une histoire, dans un parcours et de rendre cette œuvre la captive, mettre peut-être pas dans une cage, mais en tout cas de l'intégrer dans quelque chose de plus ou moins quand même rationnel, parce que l'histoire de l'art, ça reste quelque chose de qui est guidé par, je veux dire, par l'intellect.
Alors, il y a toujours ce danger de neutralisation, effectivement, aujourd'hui plus que jamais. Mais bon, je pense aussi quand même que les textes du catalogue sont assez clairs pour qu'on voit qu'il s'agit d'un personnage quand même assez irréductible. Et puis bon, c'est à faire en sorte aussi aux gens qui vont percevoir son œuvre de voir qu'il y a là-dedans quelque chose qui ne se soumet pas. Mais bon, il faut faire très attention. Donc c'est quand même, ça c'est un peu le rôle de ses amis. Moi, j'essaye d'insister beaucoup sur le fait que ce personnage-là, il ne peut pas être récupéré, et que je vais tout faire pour qu'elle ne soit pas récupérée. Mais d'un autre côté, je pense qu'elle aurait été très contente, parce qu'on peut dire que là, elle est avec ses amis. C'est-à-dire, elle est avec Friedrich, ici, elle est avec Cranach, elle est avec, c'est tout, quand même, des peintres considérables qu'il y a dans les collections de la Kunsthalle. Et elle connaissait admirablement l'histoire de la peinture. Elle connaissait, mais vraiment très très bien. Et si elle a beaucoup voyagé quand elle en avait la possibilité, c'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi parce qu'elle a hanté les musées du monde, parce qu'elle était folle de l'image. Elle était folle de l'image comme elle était folle du cinéma. C'est-à-dire à travers le cinéma, c'était l'image. Jusqu'à la fin de sa vie, elle allait tous les soirs au cinéma quand elle n'avait rien d'autre à faire.
Et quels étaient les peintres qu'elle aimait le plus, ou aussi les cinéastes? Qu'est-ce qui était pour
elle? Elle aimait beaucoup Cranach, Friedrich, et aussi les Italiens, aussi la grande période italienne, donc ça, elle aimait beaucoup de la Renaissance italienne.
Et, 15e, 16e.
Oui, c'est ça. Et puis par exemple, à Prague, elle a eu la chance qu'il y ait eu, au début du 20e siècle, des grands collectionneurs. Donc comme ça, elle a vu aussi les débuts de la modernité. Il y avait des Picasso, et en particulier, il y avait des douaniers Rousseau. Et ces douaniers Rousseau étaient très importants pour elle aussi.
dans quel sens? C'est une question qui m'intéresse bien parce qu'on voit dans l'exposition une série de peintures, comme je n'ai pas eu le temps encore de regarder vraiment à fond, c'était juste une petite heure que j'ai pu passer là-haut, donc je ne sais plus de quelle période. Ce sont des peintures qu'on dirait entre guillemets, mais ce terme pour moi n'est pas péjoratif, mais vraiment très positif, primitif.
Alors il y a une diade justement dans son parcours, il y a une année, l'année 1925, qui est une sorte de ce qu'on peut appeler primitivisme. Mm-hmm. Mais quand on regarde de très près, ça a l'air, mais c'est tout sauf ça. Mm-hmm. Mais n'empêche que ça correspond aussi au mouvement qu'il y a à ce moment-là à Prague, ce qui s'est appelé le poétisme, où il y avait un regard porté sur tout ce qui n'était pas intégré dans l'histoire de l'art officiel. Justement, c'est l'époque où il y a la découverte de l'art dit primitif, où il y a la découverte des pays lointains, où il y a... Et en même temps, on regarde aussi très près les peintres populaires, naïfs, et il y avait un intérêt justement pour tous les spectacles populaires, c'est-à-dire les fêtes foraines, les foires, les acrobates, les choses comme ça. Et Toyen les a vues, et elle était aussi très liée donc au peintre Jindrzejczyk, qui lui a fait des séries de photos, justement, de ces baraques avec les toiles peintes, etc. On est aussi dans l'univers de Rimbaud, hein, c'est les peintures idiotes, etc., etc. C'est quand même, dans le fond, elle est très près de Rimbaud, hein, avec le côté... Je n'aurai pas ma main, je n'ai pas ma main dans ce siècle la main pour la révolte, pour aussi la poésie, c'est-à-dire le fait que la poésie est là. Hein, est là. Il suffit de regarder différemment. Ouais. Et quand on regarde différemment, justement, aussi toute cette génération a vu qu'il y avait une autre poésie, par exemple dans l'art forain, dans le cirque, dans le musical, etc. Et on voit aussi à quel point Toyen, justement, c'est encore l'image, parce qu'elle regarde les expressions populaires qui se préoccupent de produire des images. C'est les spectacles populaires. Oui. Et avec aussi cette sorte de, naïveté, les mots ni primitivisme ni naïveté sont à côté, mais une sorte de fraîcheur de regard qui fait qu'elle a toujours gardé, qui est une sorte de presque celui de l'enfance, mais dans le sens de l'émerveillement, hein, c'est ça. C'est-à-dire la capacité de s'émerveiller de ce qui survient, et de ce qui survient des choses les plus quotidiennes. Et il y a un peu ça dans ce regard qu'elle porte, dans ce qu'on a appelé dans cette période de primitivisme, qui lui permet aussi de prendre une sorte de distance avec les tableaux avec ce qu'elle avait commencé à travers une sorte de purisme ou de cubisme. Tout d'un coup, c'est comme s'il y avait un écart, et après elle va se jeter avec Stierski dans l'aventure de l'artificialisme, qui est quelque chose de tout à fait étonnant.
Parce que ça, on le connaît très peu.
On ne le connaît pas, parce que c'est eux deux qui ont inventé ça, et c'est l'idée que d'abord que le poète et le peintre, il n'y a pas de différence. Toyen insistait lourdement sur le fait qu'elle n'est pas un peintre, parce que le côté fabrique, le côté marchand du peintre, ça m'intéressait. Elle n'est pas un peintre, mais elle est quelqu'un qui regarde. Elle est un regard. Et ce regard-là, il a acheté ce qu'il y a à elle, il leur a importé d'essayer de l'affiner, de l'approfondir, pour voir qu'il se passe des choses entre les êtres, entre les objets. Et c'est ce rapport qu'ils ont appelé artificialisme et qui essaye de montrer qu'est-ce qui se passe, si on peut dire, dans l'espace. Et que dans l'espace, dans les profondeurs de l'espace, il y a des courants, il y a des concrétions qu'on ne voit pas forcément, mais qui font que la vie nous apporte des choses qu'on n'avait pas prévues. Et c'est une grande réflexion sur la représentation qui commence avec Stierski et Toyen, et en même temps qui s'accompagne d'un approfondissement de leur rapport à la matière. Et ça, je trouve ça très important. Et ce qui est intéressant, c'est que, disons, dès les années 20, donc 26, et puis ça va aller jusqu'à 34, ils ont des préoccupations et des réalisations qui, à mon avis, sont au moins aussi fortes, mais sûrement plus subtiles que ce qu'on a vu plus de 30 ans après avec l'abstraction lyrique. Dans le fond, c'est eux, ils ont inventé ça, si on peut dire. Mais c'est à la fois, il y a une grande force, il y a quelque chose de très subtil. Plusieurs fois, quand je me disais, mais c'est tellement évident ce qui monte, mais je n'arrivais pas bien à savoir. Et à un moment, j'ai pensé à ce passage de Lautréamont quand il parle des membranes vertes de l'espace. Mm-hmm. C'est comme s'il nous donnait à voir les membranes vertes de l'espace. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça les amène à un approfondissement dans la matière qui va les faire retrouver une vie des profondeurs et en particulier de mesurer la charge sexuelle de tout ce qui s'agite dans les profondeurs des êtres et du monde. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils vont après retrouver le surréalisme. Par la densité érotique de ce qu'ils approchent.
Donc le désir comme force, comment dire,
essentielle, première.
Part. Oui.
Et là, on voit très bien la profondeur, justement, des préoccupations de Toyen. Hein. Parce que tout d'un coup, on se trouve devant quelque chose vraiment de très rare. C'est une peinture qui pense, mais qui pense à travers l'image. À travers sans qu'elle ait jamais formulé quoi que ce soit, mais c'est cette démarche, cet approfondissement de l'image, cette aventure qu'elle a accomplie à travers l'image qui fait naître cette pensée de l'image.
Et donc, vous avez déjà évoqué le surréalisme. En général, on la met là-dedans, dans le surréalisme.
Oui,
évidemment, ça a joué un rôle important, même si le mot isme tout le temps, le XXe siècle, ça pose toujours un problème. Quelle est son approche là, ou sa particularité en contact avec les surréalistes?
Ce qui est intéressant, c'est que vers 27 même. Toyen et Chtchersky viennent à Paris. Chtchersky, je crois, a hérité de son père, et avec cet héritage-là, il s'installe à Paris. Ils font des expositions nommées artificialistes. Il n'y a que eux deux. Et d'ailleurs, Philippe Soupeau va être intéressé. Il leur fait un texte. Il y a un très beau texte de Philippe Soupeau, qui voit que là, il y a quelque chose de nouveau. Mais ils se tiennent à distance du surréalisme. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est la question de l'automatisme psychique ne les convainc pas. La question de l'automatisme ne les convainc pas.
Donc, on ne les a pas retrouvés dans ces séances-là, les fameuses séances de
Non, ils ne sont pas du tout, ils ne rencontrent pas les surréalistes à ce moment-là. Et il y a... parce que je pense aussi qu'ils sont tellement pris dans cet approfondissement de l'image, de l'espace, ils sont ailleurs en quelque sorte. Mais étant donné ce que j'ai évoqué, la démarche qui les fait aller dans les profondeurs de l'espace, de la matière, à travers aussi l'évocation de la mer, de ce qu'on trouve sous les eaux, l'évocation des mers lointaines, et tout ça. Et tout d'un coup, il découvre cette sorte de pesanteur ou de dimension très forte, érotique du monde, qui fait marcher le monde. Et en même temps, ça correspond aussi aux intérêts depuis le début de Toyen et Chtchersky pour la dimension érotique. Puisque dès toute jeune, elle fait, à 1920, donc 22, il y a un tableau 1920, et on le revoit dans un autre qu'elle a repris, qui est à peu près le même, de 1922, donc elle a 20 ans, qui est cet énorme coussin, qui est un immense coussin où il y a un groupe de gens dans les positions les plus incroyables, érotiques. Donc c'est quand même une jeune femme de 20 ans, en 22. Je pense qu'elle est la seule au monde à avoir fait ça.
Oui, ça c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour.
Mais c'est ça.
C'est très drôle.
Et c'est ça qui caractérise, parce qu'elle est arrivée, quoi qu'elle fasse dans cet ordre-là, par tous ses dessins et ses tableaux, c'est qu'elle est arrivée à inventer une sorte d'humour érotique qui rend compte aussi de la liberté du personnage. D'abord, on trouve ça pratiquement jamais chez une femme. Et elle, il n'y a jamais eu même un millimètre de vulgarité. Et en même temps, c'est très drôle. Il y a une sorte de joie enfantine, de joie d'innocence animale, mais de joie formidable, qui fait que... Et c'est ça aussi qui introduit une turbulence, moi j'appelle ça une sorte de turbulence, qui est liée à sa liberté qu'elle avait. Et c'est ça, si je parlais de l'enfance, il y a une sorte de liberté qui fait qu'elle regarde le monde différemment et qu'elle va prendre des chemins que personne n'a pris. Parce qu'elle a cette liberté en elle, et toute sa vie, je dois témoigner, qu'elle a été continuellement intéressée par justement la dimension érotique qui est absolument essentielle chez elle.
Mais qui prend toute forme, je veux dire, parce que ce que vous venez d'évoquer, là c'est très visible, même.
Oui, bon, oui.
Même un peu, je veux dire, c'est tellement visible, tellement direct.
Il y a une sorte de provocation,
oui,
continuelle.
C'est drôle, oui. C'est drôle, à la limite. Oui. Et puis après, il y a des formes,
c'est ça,
évidemment,
c'est ça.
Complètement.
Et alors justement, comme il y a en même temps cet approfondissement que j'ai évoqué là, de leur aventure à travers l'image, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils prennent l'un et l'autre de plus en plus au sérieux, justement, à la fois donc, la littérature érotique proprement dite, les productions érotiques, les images dites pornographiques, et en même temps, ça correspond à la découverte de Sade par Jean Drostiaski, qui commence d'ailleurs une biographie du marquis de Sade. Et ils sont complètement fascinés, dès les années 30, par Sade. Et à tel point qu'en 1931, ils vont commencer, Stierski, à faire la revue érotique, s'appelle la revue érotique, qui est une revue qui n'est pas sous le manteau, mais qui va se diffuser par... comment ça s'appelle ? Souscription, c'est ça. Et là, cette revue est passionnante parce qu'à la fois, il y a la traduction de textes érotiques des grands classiques et en même temps, une attention très grande portée à la psychanalyse, de ce point de vue-là, à l'ethnographie, Malinowski, par exemple, des choses comme ça. Et ça va durer 3 numéros, cette revue, donc ça va durer 3 ans et après, il va y avoir un effet de censure et dans le même temps Stierski et Toyen font les éditions 69 qui publient aussi des textes érotiques dont Justine de Sade que Toyen illustre. Elle est la première femme, je ne sais plus s'il y a des femmes qui ont illustré Sade, je ne sais pas, mais ce qu'elle fait c'est tout à fait bouleversant et elle collabore continuellement à cette revue là qui après va être suspendue pour des raisons de censure. Mais on voit comment, là, ce courant érotique, cette dimension érotique devient essentielle chez eux. Et c'est une des raisons, là, je pense, très forte, qui va les rapprocher du surréalisme. Parce que ça correspond à l'époque Minotaure, où les surréalistes sont plus que jamais sous l'influence de Sade. Je dis plus que jamais sous l'influence de Sade, parce que à ce moment-là, depuis la fin des années 20, c'est-à-dire 27-28, ils sont en liaison avec Maurice Hein. Maurice Hein, c'était celui qui a redécouvert le plus et édité des manuscrits qui n'étaient pas connus du marquis de Sade. Et en particulier, c'est lui qui a fait la première véritable édition des 120 journées de Sodome. Et à tel point que à la fin de la revue qui s'appelait La Révolution surréaliste, il y avait dans La Révolution surréaliste une rubrique qui s'appelait Actualité du marquis de Sade, qui rendait compte de toutes les découvertes que faisait Maurice Hein, justement, et en particulier aussi quand il y a eu après Minotaure, et je pense que là, la découverte par ces jeunes gens-là des écrits de Sade non seulement les a fascinés, mais en même temps a aidé les uns et les autres à aller peut-être plus loin que là où ils auraient été, ils seraient allés tout seuls. Ça y a eu une force d'émulation très grande. Et en plus, bon, j'ai appris que il se trouvait que Man Ray habitait à l'étage au-dessous de Maurice Heine pendant que Maurice Heine transcrivait le manuscrit des 120 journées et que Man Ray lisait au fur et à mesure les choses comme ça. Et bon, et on les prend les uns et les autres, c'est aussi bien... Dali avec ses femmes démontables, c'est aussi bien belle-mère, Masson, n'en parlons pas, avec les massacres, etc. Et là, il n'y a jamais, en quelque sorte, l'influence de Sade n'a été aussi grande, et ça correspond justement au moment où, à Prague, Toyen et Chirsky sont particulièrement intéressés par Sade, et vont d'ailleurs faire un voyage à Lacoste en 1932.
Ou au château.
Au château de Sade, où Chirsky fait d'admirables photos. Et après, ce sera l'origine d'un tableau qui est ici, au château Lacoste, qui est là chez Toyen. Et d'un côté, cette dimension érotique des surréalistes, et puis d'un autre côté, il y a les prises de position politiques des surréalistes, dont ils se rapprochent de plus en plus, c'est-à-dire qu'ils sont marxistes, mais qui prennent les distances les plus grandes avec le marxisme autoritaire, avec le stalinisme, etc. Et donc, ce qui fait que tout d'un coup, il y a une collusion à la fois politique, poétique aussi, et érotique, qui fait qu'à un moment, donc, il y a la décision en 1934 de qui est la fondation d'un mouvement surréaliste à Prague. Et Toyen a activement contribué à ça.
Donc elle ne s'est pas du tout accrochée à un mouvement, ça aurait pu être le cas, je veux dire qu'il était un peu en vogue, etc.
Je pense que c'est très important. C'est très important ça.
Elle a eu vraiment son propre chemin, à partir du moment où il y avait une évidence, elle est allée vers ça. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pas un parallélisme, mais c'est un mouvement qui va ensemble quand on regarde cette quête des artistes, n'importe si c'est les surréalistes, mais qui notamment sont très imprégnés par la découverte de Sade et tout ce qui se passe au niveau de l'histoire, de la politique, cette sortie justement des forces les plus ténébreuses possibles qui sont déjà à l'œuvre et qui vont se mettre de plus en plus à l'œuvre. Moi, j'ai toujours trouvé ça absolument incroyable parce que c'était pas seulement une réaction. Évidemment, on dit beaucoup que, et c'est évident aussi, que tout ce qui est l'art moderne qui dépasse ce qu'il y a eu avant, part beaucoup de la destruction qui est devenue visible lors de la Première Guerre mondiale. Le dadaïsme, le surréalisme sont très en rapport avec ça. Je veux dire, on ne pouvait plus faire la même chose après cela. Non. Et là, il y a une évidence, mais en même temps, tout ce qui cumule après dans la Deuxième Guerre mondiale et les suites après, je veux dire, c'est presque effrayant et en même temps, c'est fabuleux dans quel sens il y a une mouvance là, qui met déjà tout en dans la lumière, qui montre les forces qui sont à l'œuvre. Comment vous voyez cela? Et comment d'ailleurs aussi Toyen a vu cela ou a perçu ça? Parce qu'elle pensait en image, d'accord, mais bon, elle a réagi très directement aussi à son époque, à ce qui se passait. Quand on regarde ces images sur la guerre, etc., toutes ces séries-là.
Je pense que, justement, par cet approfondissement qui est de part et d'autre, aussi parce que il y a chez ces personnes-là, moi après que j'ai rencontré aussi bien Toyen, Breton, etc., il y a ce désir de penser l'homme tout entier, ce qui est maintenant de plus en plus rare. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est tout, c'est-à-dire c'est à la fois de penser l'homme dans l'univers, le penser dans son rapport au monde, et aussi aussi éviter tout ce qui est simplification, et de savoir que nous sommes faits aussi, si nous sommes faits comme nous sommes faits de nos rêves, mais que ces rêves aussi charrient aussi toute une nuit, et que cette nuit, à un moment où Breton parle de ce qui est à l'origine du désir, il parle de l'infracassable noyau de nuit, donc qui est une formule extraordinaire, mais c'est de ça aussi, c'est-à-dire que les uns et les autres, et Toyen plus que que d'autres, a très bien senti qu'il y a chez chacun de nous, qu'il y a ces forces noires et qu'on est en rapport avec ces forces noires. Donc il y a tout un aspect visionnaire chez elle, qui va, alors que les autres, la plupart, s'en remettent aux recettes idéologiques qui permettent de se fabriquer des œillères suivant les besoins. Elle est sans œillères, mais il y a cette sorte de à la fois sa liberté lui permet de voir le monde et qu'est-ce qui s'agite dans les profondeurs. Et de ce fait, il y a quelque chose de profond et de très très visionnaire. Donc elle va percevoir d'ailleurs avant les autres, quand on voit ces dessins qui annoncent les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, c'est des choses, à mon avis, beaucoup plus fortes après de ce qui a été produit par la façon par les différents artistes qui ont réagi. Parce que tout d'un coup, elle mesure l'ampleur de la dévastation. Et ce qu'il y a de bouleversant, c'est qu'elle le fait à travers un monde d'innocence, c'est-à-dire, par exemple, avec des jouets détruits. Donc on voit aussi que plus rien ne reste devant cette force de dévastation, ou des animaux, dont il ne reste que les squelettes ou les choses enflammées, enfin, les carcasses enflammées. Donc c'est aussi ceux qui n'étaient pour rien vont être complètement pris dans ce mouvement de dévastation du monde. Et là, je pense qu'elle est allée très très loin dans ça. Mais toujours au nom aussi de... Elle évoque d'une certaine façon, sa révolte est toujours à la mesure de son sens du merveilleux. C'est-à-dire que peut-être son sens du merveilleux est tellement grand qu'elle mesure l'horreur, la profondeur de l'horreur. Vous voyez, c'est ça.
Mais j'ai l'impression qu'elle ne juge pas. Elle montre tout, elle regarde tout. C'est sans limite, je dirais. Comment dire, il n'y a pas de... Elle ne laisse rien de côté. Mais je n'ai pas l'impression qu'elle ait un regard qui juge. Hein. Vous voyez ce que je veux dire?
Je comprends. C'est-à-dire qu'elle a un regard qui est sans limite, justement. C'est-à-dire qui ne se conforte pas des présupposés idéologiques. Ça, c'est sûr, et c'est sa liberté. Et c'est aussi ce qui fait la grandeur de sa vision, si je puis dire. Mais d'un autre côté, elle a une force de rupture extraordinaire. C'est-à-dire, parce que le mot juger est un peu ambigu.
Oui, bien sûr.
Bon, mais par exemple, pendant la guerre, là, pendant cette période de la guerre, elle va cacher tout le temps de la guerre Heinrich Eisler, qui est un jeune poète juif, qu'elle va cacher dans sa salle de bain. Donc elle risque tout.
Elle est très décidée.
Elle est décidée, il y a une détermination incroyable. Ouais. Et donc, elle prend tous les risques, là, et vivent quelque chose. On y reste 5 ans, là, comme ça, complètement.
C'est très impressionnant parce qu'ils ont vraiment vécu dans un espace extrêmement réduit.
Oui, et elle, quand il y avait les bombardements, elle descendait à la cave et lui restait en haut. Et après, il y a eu des rafles et ça s'est arrêté. Ils étaient, je crois, au 5e étage, ça s'est arrêté au 4e. Hein. C'est des choses incroyables.
C'était vraiment, je veux dire, c'était être à l'affût.
Ce qu'il y a justement aussi, pour moi, de bouleversant, c'est que quand ils sont en train de vivre ça, ils font quelque chose qui s'appelle à eux deux, qui s'appelle Les Casemates du Sommeil. C'est un livre de photos qui s'appelle Des poèmes réalisés. C'est-à-dire, Heinrich Eisler a fait des poèmes avec des petites lettres découpées. Toyen a fait des paysages, des tout petits paysages miniatures. Et après, ils ont mis le texte dans les paysages miniatures. Il y a quelques photos là. Et ça donne un objet absolument merveilleux. Et de voir que, au milieu de l'horreur, ces deux êtres-là qui sont complètement traqués, si on peut dire, sont aussi capables pour s'opposer à l'horreur du monde, sont capables aussi de miser sur le merveilleux.
Ça montre un espace de liberté absolument incroyable, je trouve. Pas seulement supporter et subir, ce qui a été beaucoup le cas.
Et ça correspond aussi au moment où Eisler, qui était donc à l'origine poète, commence à faire des photographies et il va inventer ce qu'on appelle les photographismes, qui, à travers des négatifs avec une aiguille ou avec de la colle, va commencer à faire naître des formes. Et ça va être des paysages incroyables. Et on sent très bien à la fois l'horreur, mais on sent très bien que quelque chose d'autre passe. Et il y a tout un... Et toi, il y a beaucoup participé à ça. Donc c'est aussi, on peut mesurer comment c'est entre les deux pôles qui tout se joue là. Et jamais on ne lâche un pôle au détriment de l'autre.
C'est une forme de résistance qui est absolument éblouissante parce qu'on a l'impression qu'ils étaient capables de créer un espace, je veux dire, n'importe l'endroit réduit dans lequel ils vivaient, qui était immense. Je trouve que c'est absolument remarquable. Pendant la période après que... Là, on saute un peu, parce que il y a la période après où elle a été beaucoup avec les surréalistes. J'ai regardé un peu, il y a le DVD aussi, dans lequel vous parlez un petit peu, un documentaire sur Toyen. J'ai pas eu le temps de regarder parce que je l'ai juste acquis à la librairie ici. Et on les voit un peu dans la nature, etc., faire des excursions. Il y a des images où on la voit un peu pendant quelques secondes.
Oui,
d'ailleurs aussi se taire, tout le monde parle, elle ne parle pas. Évidemment, vous aviez dit qu'elle était toujours restée très jeune, très libre, révoltée, etc. Mais il y a sûrement aussi une maturation, pas dans le sens de vieillir, mais d'évoluer quelque part ou de changer sur certains plans. Après tout ce qu'elle a vécu, au niveau de, je ne sais pas comment dire, de l'atmosphère qu'il y avait autour d'elle.
Je n'ai pas bien compris votre question.
L'évolution de la personnalité d'elle, parce que même si elle est restée très jeune, comme vous aviez dit au départ.
Oui, mais elle ne jouait pas du tout à la jeunesse. Hein. Elle était...
Elle n'avait pas besoin de ça, ça c'est clair.
C'est très curieux aussi, c'était un personnage donc complètement solitaire, qui ne te dit rien sur ça, très discrète. Enfin. Mais en même temps, elle a toujours été au cœur d'une activité collective, si on peut dire. Et par exemple, pour elle, c'était. Parce que aussi, il y a un moment, les surréalistes rêvent d'un communisme de la pensée. C'est un peu ça, c'est-à-dire il y avait tout d'un coup une mise en commun de la pensée, une mise en commun de, à la fois de ce qui pouvait émerveiller, de ce qui pouvait intéresser. C'était ça qui faisait que le surréalisme, dans le fond, ne renvoie aucune avant-garde, parce qu'il y avait cette sorte de liberté. C'est aussi une sorte de génie de Breton qui arrivait à faire qu'il créait un lieu où les choses paraissaient possibles, où les échanges entre les êtres étaient possibles, et ces échanges étaient tels qu'ils étaient plus riches que si les gens étaient restés en petit comité. Et donc, cette activité collective pour Toyen était très précieuse. Parce qu'à la fois, c'est aussi une façon de se protéger du monde immonde, si on peut dire. Et d'un autre côté, il y avait un lieu où ce qui n'était pas possible ailleurs était possible. Et c'est pour ça que la plupart des gens se sont beaucoup trompés sur les femmes qui étaient dans le surréalisme. Je ne parle pas de Toyen, mais les filles qui sont arrivées là, il y en avait qui n'avaient pas fait grand-chose avant. Mais tout d'un coup, elles étaient là dans un climat où tout était un peu possible. Il suffisait... Et c'était immédiatement reçu comme tel. Donc, cet échange-là, ces échanges-là, Toyen, il y a... Depuis donc qu'elle a 17 ans, et elle y tient, et jusqu'à la fin de sa vie, c'est aussi, elle tenait à ça. Donc il y avait cette sorte de... de toujours la nécessité des échanges qui enrichissent et qui, dans le fond, vous rendent plus libre. Parce que la liberté des autres vous rend plus libre. Et ça, elle a été convaincue de ça.
C'est une très belle...
J'allais
dire image, c'est pas une image, c'est une vérité importante.
En quelque sorte, elle choisissait ses amis un peu comme ça. C'était ceux qui... Et elle aussi, je pense que les gens qui ont été près de Toyen, s'ils ne l'avaient pas côtoyé, n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait. En ce qui me concerne, moi, elle m'a beaucoup apporté. Justement parce que sa liberté m'aidait. Et elle avait très conscience de ça.
Donc c'est un partage,
vraiment
un partage, mais complètement libre, où il n'y avait pas de propos.
Oui.
Et il y a toujours cette image du breton, pour que je pose la question,
parce que
vous l'avez rencontré vous-même,
de
quelqu'un de, quand même, qui prenait la place principale dans les groupes, etc. Ce n'est pas vrai. Comment vous voyez cela? Parce que je me dis en même temps, quand on voit Toyenne à côté de lui, là justement dans le film, on le voit, j'ai l'impression qu'elle n'avait absolument rien à voir avec cette question là de sa place de femme dans ce groupe.
Ça n'avait aucune importance. Ça ne se posait pas du tout. Et parce que Breton était, il faut le voir aussi physiquement, il avait une sorte d'autorité naturelle. Il y a des personnages comme ça dans la vie qui ont une... Il y a les animaux, c'est comme ça. Il y a des lions, il y a des aigles qui ont plus d'allure que des lapins.
Oui, c'est vrai.
C'est dommage, c'est comme ça.
Oui.
Mais c'est comme ça. Bon, il avait une... Et d'un autre côté, en même temps, il était... intellectuellement, il se trouvait que ses moyens étaient tels que très souvent, il résolvait des questions qui étaient en suspens pour un certain nombre de gens. Alors... Et comme il avait aussi, comme en général, il faisait ce qu'il disait, ce qui n'est pas très courant, c'est-à-dire que enfin, c'est quand même un personnage aussi qui n'a jamais trahi ce qu'il a désiré être étant jeune. Il n'a pas démérité de ses rêves de jeune homme. Et ça, on ne lui pardonne pas ça. Alors il pouvait être très cassant, ça c'est sûr. Et en même temps, il faut dire aussi que les échanges entre... tout ça, quand même, c'était des êtres plus ou moins passionnés, et plutôt plus que moins. Bon, il y avait une violence. Et il y a une violence pour défendre les... Et ne parlons pas non plus des années politiques que vous avez évoquées, donc ces années des années 30, après l'après-guerre. Il y a une violence idéologique, il y a une violence intellectuelle. Qui passe. Et Breton était aussi violent quand il fallait l'être, il était. Cela dit, il pouvait être charmant, on pouvait rire avec lui, c'était un personnage délicieux. Mais avec une histoire, il y avait, Mais pour Doyen, ça ne se posait pas pour elle, ça avait pas le...
Il était libre de ce point de vue-là aussi, ce qui est vraiment remarquable.
Et il y a un... Je crois que c'est en 35, Breton dédicace une édition du Manifeste du Turenne à Toyenne, mon ami entre toutes les femmes.
C'est ça.
Et c'était son ami. Et de part et d'autre, il la considérait comme son ami et elle la considérait comme son ami. Et Toyen a une conception justement de l'amitié qui reposait sur la liberté de ses amis. Qui consistait à protéger la liberté de ses amis. Donc, de ce point de vue-là, c'était...
Toyen a encore connu les années 68, évidemment. Une période qui quelque part suit aussi un peu tous ces mouvements d'avant-garde. Mais en même temps, il y a quand même comme une nouvelle période qui commence là. Comment elle a vécu cela?
Très bien, très joyeusement.
D'accord, ça
joyeusement parce que ça lui plaisait beaucoup, sauf que elle, comme Radovan, avec qui j'étais, mais donc elle va pas dans les manifestations parce que elle peut pas pour d'abord, elle est quand même un peu âgée, et puis en tant qu'étrangère, plus qu'étrangère, elle est apatride, elle risque d'être mise à la porte de France et comme Radovan, et alors moi j'allais et je rendais compte de tout ça et donc je leur ai expliqué tout ce qui s'est passé et ils étaient très attentifs à tout ça. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à partir justement de 66, on voit bien, c'est comment, on voit très bien comment quelque chose se met en place au moment où il y a cette libération, sexe, explosion, etc. Ça correspond à un nouvel approfondissement chez Toyen de la question érotique. C'est-à-dire au moment où tout semble très facile, elle retourne vers Sade. Et donc elle fait, malheureusement, il y a des tableaux qu'on n'a pas pu avoir. Il y a un tableau qui s'appelle Une chambre secrète sans serrure. Donc on voit, c'était le titre, c'est d'elle.
Oui.
Donc pour elle, aussi c'est une réflexion entre le désir, et qu'est-ce qui lie le désir et l'amour, qu'est-ce que c'est ça, de quoi il s'agit. Et il me semble que là je m'aventure, c'est moi que cette chanson secrète sans serrure, pour elle c'est une définition de l'amour. Hein. C'est ça. Mmh. Et peut-être pour moi c'est une des plus belles définitions de l'amour. Oui. Parce qu'elle n'a pas de serrure cette chanson.
Oui.
Mais ça joue sur le secret qu'il y a entre deux êtres. Et manifestement c'est ça, mais ça correspond à une sorte d'approfondissement, de retour vers Sade, et en même temps de... d'une certitude que là quelque chose se joue, et ça correspond aussi au moment où on republie, enfin on découvre même le manuscrit du Nouveau Monde Amoureux. C'est pour ça qu'on on a choisi ce titre pour la dernière partie, de Fourier, qui avait été occulté par les disciples de Fourier, puisque donc cet utopiste là qui a fasciné beaucoup de gens qui ont réfléchi à la façon dont on pouvait commencer à vivre autrement, avait quand même passé une partie de son énergie à réfléchir sur la question amoureuse, en disant que la Révolution française a échoué parce qu'elle n'a pas aboli le mariage, elle a continué à instaurer la famille traditionnelle, etc. À renforcer la famille traditionnelle. Et donc il y a toute une réflexion justement qui est sur l'attraction passionnée, donc sur les passions qui sont entre qui dirigent les rapports entre les êtres selon Fourier, et qui dit que eh bien c'est ça qui mène le monde, hein. C'est cette attraction passionnée qu'on retrouve d'ailleurs dans la nature, et ça fait rejoindre aussi, nous fait rejoindre Dante avec l'amour qui fait se mouvoir les étoiles. Donc c'est vraiment l'amour qui est la force, la passion, qui est la force motrice du monde, si on peut dire. Et je pense que là, ça renforçait justement chez Toyen ce sentiment-là, et qui une nouvelle fois n'est pas quelque chose dans l'air, parce qu'on voit très bien comment elle relie cette réflexion, si je puis dire, sur la question amoureuse, à la fois à la dimension animale et à la dimension aussi de ce qui se passe dans les éléments, dans les quatre éléments, entre le soleil, la mer, le feu, etc. Moi je pense que là aussi il y a quelque chose de visionnaire dans celle qu'elle propose dans les derniers tableaux qui relève de la justement d'une inspiration très forte, amoureuse. Et pour elle, c'est comme si c'était, comme si aussi là, ce qui était en jeu en 68, au-delà de la libération sexuelle qu'on a retenue à juste titre, mais c'est comme si elle avait perçu aussi. Pour moi, la chose la plus importante, c'était aussi en 68, c'était le désir de vivre autrement. Hein. Mm. Et que, quand même, il y a eu des gens qui ont eu la force et la chance de formuler la fameuse histoire « Prenez vos désirs pour la réalité ». Et ça, c'est très important.
Oui, oui.
Et elle a senti ça, et que vraiment, que pour elle, il s'agissait que c'est là que tout se joue. Mais elle fait des tableaux, les tableaux de 68, il y a des tableaux de 68 qui sont formidables, qui sont d'ailleurs à l'exposition. Mmh. On voit bien comment elle est complètement dans ce monde, dans cette réflexion érotique en profondeur.
Peut-être pour finir, une question un peu qui nous ramène à notre époque aujourd'hui et depuis son décès, qui est survenu en 80, je crois qu'il est décédé en 1980.
Oui.
Voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ces 40 ans. Oui. Dans ces 40 ans, oui. Le monde a complètement changé au niveau de tout ce qui est du monde de l'image, notamment. Comment pensez-vous qu'elle réagirait à ce qui se passe aujourd'hui, ou à notre monde actuel qui pose tant de questions dans tous les sens?
Elle a toujours été contre la bêtise, contre la petitesse, contre ce qui réduit les êtres. Donc de ce fait, l'idée de la vouloir la elle a tout refusé toutes les catégories. Elle disait qu'elle n'est pas un peintre, qu'elle n'est encore moins une femme peintre, et que tout ce qui était aussi du genre réduction idéologique féministe, ça la mettait complètement hors d'elle. Et je pense qu'elle serait je ne veux pas la faire parler, mais je sais qu'elle est loin, qu'elle était loin de tout ce qui réduit, de tout ce qui peut réduire les autres, que d'accepter d'une identité qui n'est pas la vôtre et d'accepter des identités préfabriquées, c'était pour elle absolument impensable.
Donc, tout ce qui enferme, je veux dire, même si c'est dans l'idée de se libérer, on s'enferme dans l'idée de se libérer. Ça aurait été absolument le contraire de ce qu'elle a cherché, n'est-ce pas?
Et toutes les tentatives aujourd'hui d'essayer de la réduire, je ne sais quoi, justement d'en faire comme une sorte de, c'est de l'ordre de la spécification.
Oui, et d'amener vers plein d'interdictions au lieu d'ouverture, il y a des interdictions.
Elle était, mais à l'opposé de toute censure, tout ce qui peut restreindre, à nous moindrir, tout ça, elle était définitivement contre.
D'accord. Donc ça, je pense que c'est une parole pour la fin et un peu aussi, ça serait une sorte de manifeste à dire.
C'est impossible de se laisser, réduire à quoi que ce soit, à une catégorie quelle qu'elle soit, aussi bien métier, social, etc. C'est une sorte d'animal sauvage qui est intraitable de ce point de vue-là.
Et comme je vous entends, Annie Lebrun, je pense que c'est dans votre sens aussi. Si je vous demande une parole pour la fin, peut-être il y a quelque chose d'ailleurs que j'ai oublié qui vous semble important. On a parlé assez longtemps, mais peut-être il y a quelque chose d'important que j'ai tout simplement pas.
Non, c'est cette forme d'insoumission native qui est chez rien et qui est liée à une sorte de souveraineté qui est quand même celle qui est la seule chose qu'on peut. Il ne s'agit pas de bonheur, mais il s'agit de justement trouver cette souveraineté, et ça passe par